Ma banque a compris que pour moi, chaque euro compte.
Papa, moins et moins, ça fait plus. Mais plus et plus, ça fait quoi?
Ah, c'est simple. Tiens, à la Banque Postale, un prêt auto à un taux super intéressant, plus une assurance auto, ça fait plus d'avantages et 2 mois d'assurance offerts en plus.
D'accord, papa, d'accord.
Jusqu'au 5 octobre 2013, ce sont les bons plans auto de la rentrée à la Banque Postale. Profitez d'une offre spéciale sur le prêt personnel et l'assurance auto. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. 15 centimes d'euro TTC la minute.
La Banque Postale.
Banque et citoyenne. Après l'acceptation de votre prêt personnel auto par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale intermédiaire de crédit exclusive du prêteur. La Banque Postale est immatriculée au RCS de Paris et à l'ORIAS en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des Assurances.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Vous êtes nombreux à nous donner votre avis, notamment via les réseaux sociaux, sur le nouvel horaire de votre rendez-vous au cœur de l'histoire. C'est désormais à 14h, vous le savez, que vous retrouvez Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, vous savez. Sachez en tout cas que vos messages sont lus attentivement. J'ai croisé nombre d'entre vous le week-end dernier. Certains sont ravis de cet horaire de 14h, qui leur permet de déjeuner tranquillement avant l'émission. D'autres, et ils sont nombreux, regrettent de ne plus pouvoir nous retrouver pendant leur pause déjeuner. Alors à tout cela, je rappelle qu'il est évidemment possible de réécouter l'émission sur le site d'Europe 1 et bien sûr de la télécharger, ce que vous êtes si nombreux à faire. Vous savez Céline que certains nous écoutent dans les transports ou en faisant leur gym, en se couchant le soir, certains même, paraît-il, en faisant leur jogging.
Mais ils ont bien raison. Et aujourd'hui, vous avez choisi de nous emmener loin, très très loin en arrière.
Et oui, il est rare que l'on parle de l'ancienne Grèce et de l'ancienne Rome dans les grands médias. L'amoureux de l'Antiquité que je suis le déplore. Et c'est pourquoi dans cette émission, nous évoquons régulièrement les temps anciens. Aujourd'hui, avec Catherine Salles, je vais parler des anciens grecs et latins. Et pour nous mettre dans l'ambiance, je vous propose d'aller faire un tour dans la Rome de Néron. Signa ferre, comme disait l'autre, autant dire en avant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ferrand.
Il y a quelques années, le beau palais du Quirinal à Rome proposait une exposition sur les grandes fresques civiles romaines. Vous savez, ces peintures étonnantes qui ornaient autrefois les murs des vestibules, des salles à manger, des chambres des riches villas patriciennes. Elles représentent tantôt des oiseaux perchés sur les branches d'un jardin idéal. C'était pour la salle à manger de Livy, ça, l'épouse de l'empereur Auguste. Ou bien des scènes de la vie quotidienne au forum, au terme, à la palestre, sur les routes. Ces fameuses voies romaines dont subsistent de rares tronçons dans nos campagnes. J'ai le souvenir particulier d'une fresque assez magnifique. Elle avait l'air presque noire, comme ça, a priori. Et puis, lorsque vous vous approchiez et regardiez mieux, eh bien, vous voyez se dessiner les architectures et les toits de Rome, plongés dans la nuit et reflétant seulement de manière presque imperceptible la lumière de la pièce où se trouvait le spectateur, comme s'il s'agissait en quelque sorte d'une terrasse ouverte sur la nuit romaine. C'est absolument extraordinaire, le raffinement de tels décors. Il en existe de sublimes aussi à Herculanum, près de Naples, à Touga en Tunisie, enfin un peu partout sur le pourtour méditerranéen, dans l'ancien empire romain. La splendeur si bien conservée de ces scènes qui paraissent avoir été peintes hier ou avant-hier vous prend à la gorge et vous donne forcément envie de vous plonger dans cette vie antique qu'il n'est pas très difficile d'idéaliser. Le moyen d'accès à ce passé lointain, ce sont d'abord les textes des historiens de cette époque-là. Alors, ils portent des noms un peu intimidants qui ont l'air scolaires, peut-être, Plutarque, Tite Livre, Diodore, Suétone, et bien sûr, Tacite, l'auteur des Annales qui dépeint notamment les règnes de Tibère, Claude, Néron. Vous voulez savoir à quoi Néron ressemblait? C'est Suétone qui nous apporte la réponse la plus fulgurante. Selon lui, le jeune et inquiétant empereur était de taille moyenne, les cheveux blonds tirant sur le roux, la figure plutôt agréable, dit-il, avec les yeux très bleus, la vue assez basse, le cou gras, et alors le reste est moins brillant, le ventre proéminent, le corps couvert de taches et les jambes très très grêle. Avec ça, un caractère pas très facile, hein, très colérique, le jeune Néron. À 17 ans, le 13 octobre 54, à la mort de Claude, il est désigné empereur par la garde prétorienne. Il va administrer l'État avec sagesse, sans doute, mais autour de lui, on peut dire qu'on s'agite beaucoup. Il s'était déjà pas mal agité dans sa jeunesse, on aura l'occasion d'en parler dans un petit moment. Néron assure sa popularité en multipliant les spectacles, les dons, les prodigalités. Il se procure les ressources indispensables en dépouillant littéralement les sénateurs, ce qui, sur un plan démagogique, est toujours assez bien vu, évidemment. Il n'hésitera pas à assassiner un certain nombre d'opposants. On connaît Britannicus grâce à Racine, ça c'était en 55. C'est le cas de sa propre mère, Agrippine, en 59, de son ex-femme en 62, etc. En 64, Néron fait ses vrais débuts sur scène à Naples, car, vous savez, Néron se considère peut-être avant tout comme un artiste. C'est dans le cadre des seconds jeux néroniens, hein, auxquels participe donc Néron, comme chanteur et joueur de sitar. C'est un homme de théâtre, il se vit comme un comédien. On est là quand même dans la 10e année de son règne, il a quasiment 27 ans. L'Empire romain, c'est ce qu'il faut bien comprendre pour aussi... comprendre l'importance qu'a la chronique de ce règne, c'est que l'Empire est à son apogée au maximum de sa puissance avec cette extraordinaire administration de l'Empire et peu à peu cette démocratisation croissante du gouvernement qui s'appuie néanmoins sur ce que je vous ai dit, c'est-à-dire une démagogie galopante et des succès militaires. Hein. Il faut constamment entretenir la ferveur du peuple par ses succès. Et puis, c'est la fameuse nuit. Terrible nuit du 18 au 19 juillet 64. Néron, à ce moment-là, se trouve à Antium, qui est une station balnéaire de la baie de Naples, si je veux user d'anachronisme. Il est au bord de la mer, il a fui à ce moment-là, on est en plein été, l'écrasante chaleur de la capitale, et le soir, il est averti qu'un incendie est en train de ravager la capitale, de ravager la ville, l'Ourps. Le palais même des Césars, dit-on, commencerait à brûler. Alors, évidemment, que fait l'empereur immédiatement, on selle les chevaux et Néron part sur le champ pour Rome. Que sait-on de cet incendie, au juste ? Il s'est déclaré dans la partie du Grand Cirque contiguë au Mont Palatin et Célius. On est dans un quartier, dans les bas quartiers, disons-le, quartier de tavernes, de maisons de prostitution, où sont entreposées par ailleurs quantité de matières inflammables dans des entrepôts de marchands, de boutiquiers, dont certains sont orientaux et entreposent des textiles notamment. Donc tout ça crame facilement, bien entendu. Il y a aussi des huiles. Il y a des épices, enfin tout ce qui brûle facilement. Parce qu'il faut quand même, entre parenthèses, se faire une idée de ce que pouvait être la Rome de l'époque. C'est la métropole la plus peuplée du monde occidental. Presque 20 km carrés quand même, Rome. Hein. Presque 1 million d'habitants, vous imaginez. Une ville évidemment ornée de temples, de monuments publics, de palais, qui sont concentrés essentiellement sur la colline du Palatin et à son pied, autour des forums et de la Via Sacra. Mais une ville qui, par ailleurs, est aussi une ville très populeuse, divisée en 14 arrondissements, beaucoup de constructions de prestige voué donc à ces plaisirs collectifs sur lesquels s'appuie depuis maintenant plus d'un siècle la politique romaine. Des rues souvent étroites avec des immeubles, ces fameux insulés qui sont très très hauts. L'aspect extérieur de ces immeubles est assez agréable à vrai dire, mais lorsque vous entrez à l'intérieur, c'est souvent assez sordide. Et puis des commerces partout, donc des entrepôts. Vraiment une ville dont on peut imaginer à quel point les incendies s'y répandent facilement. Cité bigarrée, foisonnante, par ailleurs polythéiste, faut pas oublier qu'on est encore dans cette Rome païenne, évidemment, avec les chrétiens qui sont en train très très timidement de commencer à faire un peu leur place. Il faut imaginer qu'au moment des grandes cérémonies religieuses avec sacrifice d'animaux, etc., ce sont des foules considérables qui sont drainées sur les grandes places de la ville. Du reste, c'est pas la première fois que Rome est la proie des flammes. Sous Tibère, en 27, elle a brûlé. Elle a rebrûlé en 36. Des incendies incendies ont éclaté sur la colline du Célius. L'incendie, d'ailleurs, qui avait détruit toute une partie du quartier de l'Aventin. Et puis, sous Claude, 10 ans plus tôt, donc en 54, le feu a pris dans le quartier émilien. L'empereur a passé 2 jours et 2 nuits près du lieu du sinistre, a dirigé les équipes de secours, déjà en mettant ses propres gardes, hein, ses propres soldats à la disposition, bien entendu, des équipes de secours. Et quelques années avant ce grand incendie de 64, on se rappelle également les terribles foyers d'incendie qui avaient pu se répandre. Donc, on est à ce moment-là dans une Rome inflammable et on est habitué aux incendies. Sauf que cette fois, ça prend des proportions extraordinaires. Cette date terrible, hein, du 18 juillet 64 restera une date maudite aux yeux des Romains.
Alex North, un extrait de la bande originale du film Spartacus, un film réalisé en 1960 par Stanley Kubrick.
Europe 1, 14h-15h.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire des historiens antiques. C'est la suite de votre récit, Franck.
Oui, on est en plein été 64 de notre ère. Imaginez ce brasier gigantesque, ronflant, grondant, qui dégage des nuées de suie. Évidemment, toute une partie de la ville est maintenant incandescente, ravagée par des flammes immenses, des flammes que propage le vent, car il est le véritable acteur de cet incendie de Rome. C'est Tacite, dans les annales évidemment, qui nous raconte que le vent souffle, comme dit-il, comme un soufflet sur une forge, sur cet incendie. Les jardins évidemment brûlent encore mieux que le reste, et puis les maisons qui s'écroulent partout, le bruit que ça peut faire. Vous savez, les incendies, on pense toujours à la chaleur, à la fumée, etc. On oublie le bruit extraordinaire, les éclatements partout. C'est très impressionnant. Et la panique, bien entendu, les cris des gens, le peuple surpris dans son sommeil. Quand même 1 million de gens, hein, qui sont là, qui peuvent être éventuellement touchés par la fournaise. Personne ne peut combattre ouvertement le feu à cette époque. Et donc, alors d'autant plus qu'il y a ceux qui essaient d'éteindre le feu, mais vous en avez de nombreux qui viennent évidemment des quartiers moins bien famés et qui empêchent qu'on arrête le feu parce qu'ils se disent qu'évidemment ça va faire des maisons à piller, tout ça, bien entendu. Il y en a même qui, paraît-il, à l'aide de brandons enflammés, attisent encore le feu. Est-ce qu'ils ont reçu des ordres? On peut penser plutôt qu'ils travaillent pour eux-mêmes et que ce sont des voleurs en puissance. Alors donc le vent, les flammes gagnent le Palatin attisé par ce vent. Elles sont arrêtées par les édifices en pierre des Césars. Vous savez, dès qu'on arrive dans les quartiers plus construits, évidemment le feu ralentit. C'est normal. Moins il y a de bois, plus il y a de pierres et moins ça brûle. Le feu donc va bifurquer. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir la dynamique des incendies. On avait vécu la même chose lorsqu'on racontait le grand incendie de Londres en 1666, hein, le feu bouge comme ça, il bifurque en l'occurrence vers le Capitole et vers les parties basses de la ville, difficile de l'arrêter. Alors, et Néron dans tout cela? Eh bien, Néron, quand même, pour arriver de sa résidence d'été, avait 3 ou 4 heures de route à cheval. Il est parti d'Antium sur le champ, mais puisqu'il lui faut plusieurs heures pour arriver à Rome, bien entendu, au moment où il arrive en vue de Rome, la cité est complètement prise par les flammes. Un voile de fumée recouvre la ville. La troupe de l'empereur voit des colonnes incandescentes des pentes de l'Aventin au sud, de l'Esquina à l'est. Néron est complètement surpris par l'ampleur du sinistre. Il ne s'en cache pas. Alors à travers l'opacité de cette espèce de brouillard de feu, on peut néanmoins comprendre l'étendue du désastre. On sent cette odeur âcre, hein, et puis ce peuple qui fuit de partout. Néron croise les premiers fuyards, des familles entières qui sont là, qui abandonnent la ville. Il se rend d'abord dans un premier temps temps au jardin de la villa de Mécène, les fameux Hortis Maecenatis, les jardins de Mécène que le conseiller d'Auguste a fait décorer sur les Esquilins. Son objectif, c'est de se trouver le plus possible à l'abri de la zone de feu et surtout d'avoir la plus grande vue possible sur le désastre pour essayer de commencer à ordonner les secours. Au sommet de la colline du Palatin, le palais impérial, pour sa part, a disparu dans un océan de feu et de fumée. C'est là que sont édifiées les premières habitations de la ville éternelle et c'est là que le sinistre a l'air de se plaire. Le palais impérial, la nouvelle maison de Néron était en construction, elle avait commencé 3 ans plus tôt. C'est un palais, il faut imaginer, hein, qui s'étend sur des distances impressionnantes. On est dans une espèce de brèche, de dépression qui sépare le Palatin de l'Esquilin. Qui dit villa impériale dit jardin gigantesque. Et évidemment, tout ça crame facilement. Dans l'ensemble, tout ce domaine s'appelle la Domus Transitoria, c'est-à-dire la maison du passage. L'incendie va précisément y passer par là et se propager par ce chemin. Il atteint les premières pentes de l'Esquilin, il se déploie de plus en plus à travers la ville. On n'a pas idée de tout ce qui a pu être détruit à ce moment-là. Vous imaginez les œuvres d'art extraordinaires, la richesse inouïe de ce palais de Néron. Et au moment où l'empereur arrive, la demeure est presque entièrement consumée. Mais les palais d'Auguste et de Tibère, les temples de Jupiter et d'Apollon, la bibliothèque palatine fondée par Auguste, la maison donc de son ancienne épouse Livie, tout ça a été partiellement épargné. Vous vous doutez bien qu'à cette époque, il y a déjà les ancêtres de nos pompiers, évidemment, qui comptent beaucoup sur le fleuve, hein, sur le Tibre, qui est une sorte de rempart naturel aux flammes. Les quartiers limitrophes du fleuve sont préservés. Les pompiers, si je puis dire, sont composés de 7 troupes d'affranchis d'élite qui sont déployées sur cette trop grande surface, hein, 10-12 kilomètres carrés. Le préfet des vigiles dispose d'une force donc de 7000 pompiers, sauveteurs, démolisseurs, qui viennent de 7 casernes disséminées dans Rome. Il y a 14 postes de vigie pour essayer de suivre l'évolution du sinistre, mais enfin, il faut imaginer que les communications, bien que nous soyons chez les Romains et qu'ils soient très organisés, ne sont pas ce qu'elles peuvent être devenues. Les pompiers, si je veux employer cette expression, sont équipés de matériel, hein. Ils ont des pompes à bras, des haches, bien entendu, des crocs, des scies, enfin tout ce qu'il faut, bien jusqu'à des éponges et des pièces de drap imbibées de vinaigre, des matelas. Certains ont écrit parfois que ces hommes ont failli à leur tâche et que le corps des pompiers romains allait laisser l'incendie se développer, soit par impuissance, soit en prenant la fuite. Il semblerait, et les historiens aujourd'hui sont unanimes à le dire, que ce soit complètement faux. D'ailleurs, contrairement à la légende, Néron, lui aussi, va prendre des décisions. Néron est à la manœuvre dans cette affaire. Et non seulement il n'attise pas le feu, mais il est très efficace dans la lutte contre l'incendie. C'est ce que je vous propose de voir dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et c'est la dernière partie de votre récit, Franck. On retrouve donc Néron face à cet incroyable incendie de Rome.
Et oui, l'empereur Néron a fait construire à la hâte des baraquements pour recevoir le plus possible de sinistrés, de blessés. L'objectif, c'est aussi de reloger assez vite les personnes qui ont perdu leur domicile. Elles sont innombrables. Néron, comme l'avait fait son prédécesseur, hein, comme l'avait fait Claude, est là au milieu des sauveteurs. Il organise les secours avec les autorités, évidemment, de la ville. Même les historiens les moins favorables à cet empereur, pour le moins décrié, ont reconnu cela, il faut le dire. Et il va passer la nuit dans une villa des jardins serviliens, en dehors des murailles de la ville, mais il reste là, il reste à Rome, alors que la cour, elle est restée à Antium, bien entendu. Au total, on pense que l'incendie aura duré 6 jours. Les derniers brasiers, les derniers foyers d'incendie s'éteignent le 27 juillet, et sur les 14 régions de la capitale, on peut dire que 4 sont indemnes, 3 sont détruites totalement, et les 7 autres sont en cendres. Ça, c'est quand même, c'est assez effroyable. On pense que pour ce qui est des grands édifices, plus de 20%, 1 sur 5, ont été détruits. C'est très important. Alors, le préfet de Rome fait affluer le plus possible de vivres depuis les entrepôts du port d'Ostie, vous savez, d'Ostia. Les municipalités voisines sont sollicitées, évidemment. C'est un peu, on organise des secours comme ce qu'on peut connaître à notre époque. Hein. On envoie des vêtements, des mobiliers, du mobilier, enfin tout ce qu'on peut, bien entendu. Et puis, des mesures gouvernementales sont prises pour maintenir le prix du blé, qui aurait évidemment, étant donné tout ce qui a pu brûler dans les entrepôts, qui aurait tendance à flamber, si j'ose dire. Alors, néanmoins, malgré toutes ces bonnes mesures, une rumeur commence à se propager et elle va s'étendre, cette rumeur. Et on dit que l'incendie aurait été ordonné. Vous savez, quand il y a de grandes catastrophes comme ça, on cherche souvent des coupables. La rumeur enfle sur la responsabilité de Néron lui-même. Le peuple croit que Néron aurait fait brûler Rome. Certains disent pour le plaisir du spectacle, ce personnage est par ailleurs tellement sadique. D'autres disent surtout parce qu'il avait la volonté de tout reconstruire et que c'était un moyen de faire place nette. C'est très méditerranéen, ça, comme état d'esprit. Et pourtant, comme le font remarquer nos historiens modernes, ce sont quand même les plus beaux quartiers de la capitale qui ont flambé les premiers, en l'occurrence. Donc, si on avait vraiment voulu faire flamber Rome pour la reconstruire, on aurait commencé par les quartiers populaires et insalubres, évidemment. Le fait est que Néron n'a pas bonne réputation. Une scène a marqué les contemporains. Vous le savez, on voit Néron un luth à la main, alors que je vous ai dit qu'il jouait de la cithare, entre nous soit dit. Mais enfin bon, un luth à la main en train de déclamer des vers sur l'incendie de Troie. Vous savez, ça, c'est vrai que c'était beau. Faut pas oublier que Néron est un artiste. Il est possible qu'il ait eu cette attitude. Vous savez, ça l'a pas empêché, encore une fois, de mener les secours. Mais par ailleurs, on peut l'imaginer sur les coups de, je sais pas, moi, après plusieurs heures de travail, on peut l'imaginer attrapant un instrument et se mettant à déclamer des vers, mais pas forcément avec joie. Ça pourrait peut-être aussi être des vers de douleur, que sais-je. Voilà ce qu'écrit Suétone. Choqué de la laideur des vieux bâtiments ainsi que des rues étroites et tortueuses de Rome, Néron y mit le feu si ouvertement que plusieurs consulaires n'osèrent pas arrêter ses domestiques qu'ils surprirent dans leur maison brandissant des étoupes et des flambeaux. Néron regardait ce spectacle du haut de la tour de Mécène, charmé, disait-il, de la beauté des flammes, en chantant la prise de Troie revêtue de son costume de comédien. Ça, évidemment, ce sont des phrases qui ont été citées, notamment par tous les historiens chrétiens qui avait besoin, évidemment, d'accuser un peu plus Néron. Aujourd'hui, évidemment, les historiens n'ont plus du tout ce point de vue. Alors là, je n'aurai que l'embarras du choix pour vous citer tous ceux qui pensent le contraire, à commencer par exemple, Léon Homo, à la Belle Époque, qui fait observer que l'empereur ne se trouvait pas à Rome au moment où l'incendie avait éclaté, mais que cette nuit-là, précisément, était une nuit de pleine lune d'été, circonstance, dit-il, aussi peu propice que possible à la mise en œuvre du dessein prêté à Néron. Ce qui va nous intéresser dans les minutes qui viennent, c'est ce qu'ont pu en dire les historiens d'autrefois, Tacite par exemple. Néron mit à profit la destruction de sa ville et se bâtit un palais où l'or et les pierreries n'étaient pas ce qui étonnait le plus. Ce luxe est depuis longtemps temps ordinaire et commun, mais ce palais enfermait des champs cultivés, des lacs, des solitudes artificielles, des bois, des esplanades. Par ailleurs, l'espace resté libre pour construire des maisons ne fut pas utilisé sans ordre, au hasard. Les maisons furent alignées, les rues élargies, les édifices limités à une juste hauteur, etc. Que Néron ait fait, après l'incendie de Rome, œuvre d'urbaniste, personne n'en doute, cher Tacite. Soyons clairs, l'empereur accuse de son côté les chrétiens d'être les incendiaires de Rome et ce sera la terrible répression qui va durer jusqu'à la fin de 66 et même au début de l'an 67 avec tous ces nouveaux chrétiens jetés aux fauves, crucifiés, transformés en torches vives, etc. Il est certain que Néron a sans doute utilisé l'émotion populaire pour la détourner sur ces chrétiens qu'il considérait comme les plus dangereux de ces sujets. Quel est aujourd'hui, avec ce qu'on peut en savoir, l'origine probable de l'incendie? Probablement les conditions météorologiques, tout simplement. On va y venir dans un instant. On peut dire qu'on est une fois de plus confronté à l'éternelle question des sources et nous en sommes réduits à nous en remettre à la bonne foi et à la sagacité des historiens d'autrefois. Est-ce que nous pouvons leur faire confiance à ces historiens? C'est ce que je vais demander à Catherine Sall dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire des historiens antiques avec vous, Franck Ferrand, et votre invitée, Catherine Salle, maître de conférence émérite à l'Université Paris-10-Nanterre, grande spécialiste de l'Antiquité romaine.
Bonjour Catherine Salle.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en train de travailler sur Tacite, justement,
en ce moment même. Tacite, oui.
Oui. Donc, les œuvres de Tacite vont être reprises dans la collection Bouquins.
C'est
formidable. C'est vous qui préparez tout ça. Alors, j'ai cité un tout petit peu Tacite. Là, j'ai cité Suétone aussi, qui n'est pas tant. Il est évident que si cet incendie de 64 a eu l'importance historiographique, c'est-à-dire s'il a laissé dans les mémoires une trace aussi importante, c'est parce que les historiens de l'époque lui ont donné une grande importance, bien entendu.
Et surtout les historiens chrétiens par la suite,
voilà.
Et tous les écrivains chrétiens qui ont fait de Néron l'antéchrist, en fait. Alors que Tacite, d'ailleurs, dit que ce n'est pas tellement en tant qu'incendiaire que les chrétiens ont été condamnés, mais ils ont été condamnés parce que leur religion était impie, que les dieux de Romains étaient irrités contre ces chrétiens et que par conséquent, il fallait les supprimer. Et c'est pour ça, Tacite dit cela, hein, il dit bien cette superstition qui allait à l'encontre de notre religion. Donc, on ne les a pas vraiment accusés d'avoir incendié Rome. Les a accusés d'avoir provoqué la colère divine, en fait.
Oui, c'est ça. Donc, c'est assez intéressant cette affaire, puisqu'on est à la confluence de la politique, de l'urbanisme et évidemment d'une question alors foncière et essentielle qui est celle de la religion, bien entendu. De la religion,
oui. Vous savez, les Romains, pour eux, il y avait deux catégories de religion. Il y avait ce qu'ils appelaient religio, qui était vraiment les liens avec les dieux. Donc, ça pouvait être bien sûr la religion romaine, mais c'était la religion juive, c'était énorme, beaucoup de religions.
Ils étaient très ouverts de ce point de vue.
Très ouverts, très tolérants. Et puis, ce qu'ils appelaient superstitio. Et superstitio, c'est une religion qui n'est pas conforme à la volonté des dieux. Et les chrétiens sont accusés de superstition.
Dans cette catégorie-là.
Oui. Alors qu'à l'époque, à Rome, la majorité des chrétiens étaient en fait des juifs dissidents. C'était pas tellement des romains, c'était des juifs qui s'étaient séparés de la Judée. Parce que ils étaient attaqués, leur religion était attaquée de l'intérieur par les juifs.
Alors, il faut bien que nos auditeurs, qui ne sont pas tous très familiers de l'histoire, évidemment, et de la discipline historique, comprennent que chaque période de l'histoire a sa méthodologie propre. Et que lorsqu'on fait de l'histoire ancienne, c'est-à-dire qu'on s'occupe de l'Antiquité, hein, vers la fin du 5e siècle de notre ère, la référence principale, en dehors de l'archéologie, qui est un domaine un peu à part et qu'on va mettre de côté si vous voulez bien, en dehors de l'archéologie, la référence principale, ce sont les sources, mais qui ne sont pour la plupart que des sources historiques, c'est-à-dire déjà compilées, déjà écrites et travaillées par des historiens antiques.
C'est ça. Oui, c'est-à-dire que surtout dans l'histoire romaine, qui est quand même plus récente
dans le temps,
on utilise beaucoup ce qu'on appelait les annales des pontifes, ou les annales du Sénat, c'est-à-dire tous les comptes rendus des séances du Sénat, des annales des pontifes. Il y avait aussi quelque chose qui est assez amusant, qui s'appelait les acta diurna populi romani, c'est-à-dire le journal quotidien du peuple romain. Et c'était Jules César qui avait instauré ça, c'est-à-dire qu'on écrivait tous les jours ce qui s'était passé d'important à Rome et on affichait ça sur les murs de Rome un peu partout. Et alors c'est amusant de voir ça parce qu'on a évidemment les cérémonies, enfin tout ce qui a été les décrets officiels, mais petit à petit le public demandait qu'on ajoute des renseignements sur la vie privée des grands.
La curiosité,
c'est ça,
toujours.
C'était déjà la presse people, c'est-à-dire que oui.
Et c'est ce que nous allons voir en parlant des différents historiens avec vous, Catherine Salle. C'est qu'évidemment, ils ne parlaient pas de n'importe où, je puis dire. Ils avaient des intérêts bien précis dans l'affaire. Ils défendaient les intérêts de telle famille ou de telle partie.
Exactement.
Et donc, il faut constamment prendre ce qu'ils nous racontent avec des pincettes, tout de même.
Exactement. Et Tacite dit lui-même qu'il a beaucoup utilisé ces acta diurna, parce que c'était affiché tous les jours.
Alors, ce Tacite qui est considéré un peu... Racine disait qu'il était le plus grand peintre de l'Antiquité. Ce maître de l'histoire romaine, est-ce que nous pouvons aujourd'hui lui faire confiance quand, par exemple, il nous décrit l'incendie de Rome, selon vous?
Pour l'incendie de Rome, je dirais qu'il est assez prudent, parce que c'est un des seuls à ne pas dire que c'est Néron qui a mis le feu. Mm-hmm. Alors que Suétone, vous l'avez cité,
oui,
Suétone dit bien que c'est Néron. Puis après, tous les autres historiens iront dans cette voie. Tacite dit, on a dit que. C'est-à-dire, quand on a dit que...
La rumeur voulait.
La rumeur veut. Alors, peut-on lui faire confiance ? Avec les moyens dont il disposait, parce que c'est vrai qu'il n'avait pas nos moyens, à nous, les historiens modernes, il a quand même fait une œuvre qui, dans, en majorité, est honnête. C'est-à-dire qu'il a voulu, il le dit au début des annales et même dans les histoires, il a voulu laisser de côté ce qu'il appelle la haine ou l'admiration. C'est-à-dire ne pas se laisser... Il écrit une histoire qu'il a connue, hein, il est presque contemporain de ce qu'il raconte. Donc il ne veut pas se laisser emporter par la haine qu'il a pu avoir contre des personnages qu'il a connus et qui ont été des personnages historiques et par conséquent en dire du mal. Et inversement, il ne veut pas non plus faire des louanges trop importantes sur des personnages parce qu'il dit que ça serait contraire au devoir de l'historien.
Oui, donc il essaie d'être le plus mesuré possible.
Oui, oui. Alors bon, c'est vrai qu'il est quand même très critique à l'égard de beaucoup de gens, mais si l'on prend par exemple les empereurs, on dit Tacite a dit pique-pendre de Tibère, de Claude et de Néron.
Bien sûr.
Ce sont les trois empereurs dont il nous a parlé. En fait, en ce qui concerne Tibère, il montre bien que les premières années du règne de Tibère ont été très bonnes pour Rome, très très sages, très bonnes, et puis qu'ensuite l'empereur s'est laissé emporter par une paranoïa en fait galopante. En ce qui concerne Claude, il montre quand même ce que maintenant les historiens reconnaissent très bien, que Claude a pris des mesures très importantes pendant son règne. Alors c'est vrai qu'il était sous la coupe de ses affranchis et de ses femmes, ça c'est vrai. Mais à côté de ça, il a quand même pris des très bonnes mesures. Quant à Néron, les premières années du règne de Néron le montrent, vous l'avez dit d'ailleurs, comme un jeune homme plein d'espoir. Et ceux qui sont beaucoup plus critiqués par Tacite, ce sont les membres de son entourage, c'est-à-dire sa mère, essentiellement Agrippine, hein, qui quand même a beaucoup poussé son fils dans des voies qui n'étaient pas très très morales.
Alors, on ne va pas citer toutes les œuvres de Tacite, évidemment les annales très célèbres et les histoires
Oui, ce sont les grandes œuvres historiques
bien
de Tacite.
Bien sûr. Hein. On a perdu un certain nombre d'œuvres, évidemment, c'est-à-dire... et surtout, on a perdu une très grande partie de ce qui lui servait comme documentation.
Ah oui, hein, oui, tout à fait. Alors, c'était un haut fonctionnaire, Tacite, hein, il avait fait une grande carrière dans la fonction publique, donc il avait à sa disposition beaucoup de documents, ça, de même que Suétone.
C'est un homme proche du pouvoir, finalement.
Ah oui, et Suétone qui était bibliothécaire des bibliothèques publiques de Rome,
oui,
donc
voilà,
il avait
aussi,
tous
oui.
les documents, même les documents secrets.
Ils étaient bien placés.
Ils étaient très bien placés l'un et l'autre, ça c'est vrai. Mais... Suétone, lui, accorde beaucoup plus d'importance au petit racontard, c'est-à-dire c'est la mauvaise langue, c'est l'histoire vue par le trou de la serrure.
Alors,
c'est vrai.
Qui était-il, ce Suétone? Et puis on va parler des autres, hein, évidemment, de Tite Live et on va parler des écrivains grecs aussi, hein, de Plutarque, etc. Nous y venons dans un instant avec vous, Catherine Salle.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
On écoutait Jeff Beal, un extrait de la bande originale de la série télé Rome. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi, des historiens antiques avec vous, Franck Ferrand, et votre invitée Catherine Salle, maître de conférences émérite à l'Université Paris-10-Nanterre et grande spécialiste de l'Antiquité romaine.
Catherine Salle qui nous prépare donc une nouvelle édition des œuvres de Tacite dans la collection Bouquins. Ça va être un événement. Alors, on a pas mal parlé de Tacite. Vous nous avez dit un mot de Suétone en disant un peu moins précis peut-être. Comment peut-on dire?
Si, il est précis parce que Suétone a fait une carrière lui aussi dans l'administration romaine, là-haut. Haute administration romaine, puisqu'il a été le directeur, c'était en quelque sorte le ministre de la Culture de l'époque, hein, il était directeur de toutes les bibliothèques publiques de Rome, et par conséquent, il avait à sa disposition tous les textes, même ceux qui n'étaient pas à la disposition du public. Donc, il y a beaucoup de ces informations qui sont exactes. Et en comparant Suétone et Tacite, on arrive effectivement à recadrer certains événements.
Alors celui que j'ai le plus étudié moi dans mon parcours scolaire, c'était Tite Live, grand littérateur, disons. Comment pourrait-on le définir par rapport aux deux autres?
Oui, lui n'a été qu'écrivain, Tite Live. C'est vrai. Il n'a été qu'écrivain. Enfin bon, il a consacré sa vie à l'écriture et il a quand même écrit 142 livres sur l'histoire romaine. Alors les étudiants, les élèves, heureusement, ne disposent que de 35 livres, ce qui ça fait autant de versions en moins parce que mais c'est un très grand historien. Il n'a pas du tout le même point de vue que Tacite ou même Suétone par la suite, parce que lui ne parle pas de la même façon, ne parle pas de la même époque surtout. Il commence l'histoire de Rome à la fondation de Rome et il va jusqu'à l'époque de Luce.
Il raconte plusieurs siècles d'histoire.
Oui, il raconte
c'est toute la grande saga de Rome.
Et surtout, il va montrer le développement de la conquête par Rome de tout le monde, en fait. Et donc, on commence avec des Romains qui sont un petit peuple du Latium, sans aucun intérêt, qui petit à petit deviennent les maîtres du monde. Donc on est tout à fait dans un autre, dans une autre conception de l'histoire.
Dans la grande saga de Rome, qui est en partie légendaire, forcément là, évidemment.
Légendaire, oui. Tout ce qu'il raconte sur la fondation de Rome, sur les premiers siècles, c'est légendaire. Mais c'est quand même lui qui nous raconte les guerres puniques. Enfin, on a quand même.
Justement, c'est quand même une histoire très militaire. Quand on pense à la guerre de Jugurtha, par exemple, de Salluste, encore un autre grand historien.
Oui.
Puis alors, bien sûr, tout simplement à la guerre des Gaules de César, qui, alors, lui, exactement. On n'est jamais si bien servi que par soi-même, écrit lui-même sa propre histoire.
C'est évidemment plus tendancieux comme histoire, mais c'est une très belle histoire. La guerre des Gaules ou la guerre civile de César sont de très belles œuvres. Mais c'est vrai que ces écrivains, que ce soit Salluste, César ou Tite Live, écrivent à une époque où Rome vaut par ses armes, c'est-à-dire sont les armes qui font Rome. Tacite et Suétone parlent d'une époque où il y a bien sûr des armées, vous en avez parlé tout à l'heure, qui sont tout autour de l'Empire, mais vous n'avez plus ces conquêtes permanentes, quoi.
Évidemment, tous ces historiens romains sont les dignes successeurs d'historiens grecs. Parce que, ne l'oublions pas, la notion d'histoire, celle qui nous réunit tous les après-midi à 14h sur Europe 1, est une notion inventée, en tout cas dans sa conception telle que, dans la conception qui est la nôtre, inventée par les Grecs. Alors, avant d'en venir au grand, au père de l'histoire, à Thucydide, à Hérodote, etc., j'aimerais qu'on dise quand même un mot des historiens grecs qui écrivaient sur Rome.
Quand même eu beaucoup.
Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'il porte un regard un peu distancié, forcément.
Alors, il y a les historiens qui ont écrit sur Rome alors qu'ils ne sont pas encore, ils ne font pas encore partie de l'Empire romain. Et puis, on a les historiens qui sont intégrés dans l'Empire romain et qui racontent en grec l'histoire de Rome. Par exemple, Dion Cassius, qui est un des très grands écrivains du 3e siècle de notre ère, qui était haut fonctionnaire d'ailleurs romain. Il était tout à fait lui aussi dans les sphères du pouvoir. Eh bien, il nous a écrit une histoire romaine. Bon, nous n'avons pas en entier, nous en avons que des fragments, mais qui permet. Cette histoire romaine permet de contrôler ce que disent Tacite ou Suétone, parce qu'ils parlent de ces
périodes-là. En fait, il faut constamment recouper les différents textes. Il faut les superposer en quelque sorte.
Exactement.
Il y a un aspect synoptique dans l'approche de la littérature historique ancienne.
Tout à fait. Et puis, ils ont quand même à leur disposition ce que nous n'avons pas. Ils ont des œuvres d'historiens qui ont disparu. Et donc, ils s'en servent de ces œuvres. D'ailleurs, Tacite cite un certain nombre de ces des œuvres qui l'ont inspiré, comme par exemple les œuvres de Pline l'Ancien, naturaliste Pline l'Ancien. Mais il n'était pas que naturaliste, il était historien.
Historien. Et c'est un esprit universel. Pline,
oui, il avait écrit une grande histoire de Rome, lui aussi.
Et Tacite, qui est perdu, dont on a des échos.
Tacite l'utilise beaucoup.
C'est ça. C'est formidable, c'est ces systèmes d'échos et d'empreintes qu'on retrouve chez des littérateurs plus récents, forcément.
Voilà.
Plus tard, qu'il faudrait citer plus tard.
Alors,
qui lui nous fait regretter la disparition des grands fonds.
Qui alors lui est un grec et vraiment grec de Grèce, lui, mais qui son œuvre est en deux parties. Il y a d'une part toutes ses œuvres philosophiques, très passionnantes, et puis son œuvre historique, mais qui a un cachet particulier, puisque c'est ce que nous appelons les vies parallèles, et ces vies parallèles qui consistent à prendre un personnage grec, un personnage romain en parallèle, par exemple Démosthène et Cicéron, ou César Alexandre le Grand, et de mener leur vie en parallèle. Alors c'est vrai que Plutarque a un point de vue plus de moraliste sur l'histoire, mais il est très très bien informé, et là aussi ça permet d'éclaircir certains passages de Suétone, de Tacite, puisqu'il va, il y a une vie de Galba, il y a donc des vies des empereurs de la fin du 1er siècle.
C'est fascinant, ces très anciens historiens, parce que évidemment, nous en Gaule, quand je dis nous, façon de parler, mais enfin ici même, même dans ces territoires qui étaient à l'époque celtiques, il n'y avait pas d'histoire et pour cause, puisque les druides n'écrivaient pas, ne voulaient pas écrire.
Oui.
Bon, donc on ne sait des Celtes et des Gaulois que ce que les Grecs ont bien voulu ou les Romains ont bien voulu nous en dire. Bon, par ailleurs, si l'on va alors dans les civilisations plus orientales, en Égypte, dans la Mésopotamie, etc., on a des textes historiques, mais qui sont tous légendaires, qui sont constitués comme des sagas. Oui. Il y a une dimension poétique en quelque sorte. Ça a été longtemps le cas chez les Grecs aussi. Qu'on pense à la guerre de Troie, revue dans l'Iliade d'Homère, par exemple. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a ce petit déclic à un moment, au 5-6e siècle avant notre ère, où les Grecs se disent « Fille de la légende, entrons dans les faits, on va se mettre à raconter les faits. » Qui est le père de ça, finalement?
C'est Hérodote. Hérodote, que l'on appelle le père de l'histoire.
Notre saint patron.
Le grand saint patron de tous les historiens, qui a donc écrit en 9 livres une histoire qu'il a appelée... Enfin, des textes historiques, et il leur a donné en grec le nom d'historia. Historia, ça veut dire enquête.
Voilà.
Donc, nous sommes dans un reportage.
Ah, c'est formidable.
Dans un reportage. Bon, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de remonter au temps mythique, hein, il y a beaucoup de... Mais il va faire ses reportages, et tous les historiens antiques par la suite vont le faire, parce que dans leur esprit, connaître le passé, c'est comprendre le présent. Donc, il y a un rapport entre le passé et entre le présent. Hein, c'est pas du tout inutile d'écrire l'histoire, c'est très très instructif pour tout le monde.
Question du fait, de l'interprétation,
oui,
question de l'objectivité, question de la critique, toutes ces notions qui sont au cœur même du travail des historiens du 21e siècle l'étaient déjà du temps d'Hérodote et de Thucydide. Il faut citer Thucydide, grand historien grec.
Mais lui, c'est totalement différent. Hérodote est encore dans la légende, alors que Thucydide, lui qui était un grec qui a participé aux guerres du Péloponnèse, a écrit l'histoire des guerres du Péloponnèse, et lui, il a un but bien précis, c'est qu'il raconte les faits, mais il veut chercher les causes des faits.
C'est ça.
C'est-à-dire, nous entrons dans un autre domaine de l'histoire.
Si on devait retenir de tout ça, je suis quand même très heureux qu'entre 14 et 15 heures sur Europe 1, on ait pu parler de Suétone, Plutarque, Tite Live, Thucydide, Hérodote, c'est complètement fou.
On pourrait parler de Xénophon et de son Anabase, etc.
Le merveilleux Polybe. Bon.
Oui.
Tous ces grands historiens... en fait, étaient d'abord des enquêteurs, nous dites-vous. C'est bien le sens du mot histoire.
Oui, ce sont des journalistes, en quelque sorte, des journalistes du passé.
Merci infiniment, Catherine Salle.
C'est moi qui vous remercie.
Et je rappelle donc que vous êtes en train de préparer cette réédition des œuvres de Tacite dans la collection Bouquins. C'est pour quand, à peu près?
Je pense que ce sera pour le début de l'année prochaine.
Eh bien, nous,
janvier, février.
Nous nous en ferons évidemment l'écho. Vous avez rendu ces choses apparemment un peu austères et tellement lointaines, vous les avez rendues très proches pour nos auditeurs. Merci beaucoup.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et à l'occasion du Salon international du cuir qui ouvre ses portes aujourd'hui à Paris, vous revenez, Franck, aux origines du cuir.
Oui, 17, 18, 19 septembre, ce Salon international du cuir à Paris. Alors, on ne peut pas revenir en fait aux origines du cuir parce que l'archéologie nous prouve que tout ça remonte dans la préhistoire, hein, dans la nuit des temps, l'homme a quasiment toujours utilisé le cuir dans toutes sortes d'utilités, bien entendu. Alors, il y a deux grands domaines où le cuir a joué un rôle absolument décisif et il y aurait quasiment une géopolitique du cuir à écrire. C'est le domaine de la marine, quand même, faut pas l'oublier, hein, avec les voiles pendant longtemps et avec tout l'accastillage de cuir. Et puis, le domaine de l'écriture avec les parchemins, mais ça nous emmènerait plus tard dans les premiers siècle de notre ère, au moment où le parchemin devient un véritable vecteur pour les grands textes, notamment ceux dont on parlait avec Catherine Salle tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je repars, moi, si vous voulez bien, aux Grecs et aux Romains. On pourrait parler de la Mésopotamie, de l'Égypte et tout ça, il y aurait tant à dire, et de la Chine aussi. Mais, en l'occurrence, les Grecs et les Romains vont inventer les solutions de tanins qui sont celles qu'on utilise, avec beaucoup de modifications, qu'on a utilisées ensuite, quasiment jusqu'à nos jours. À Rome, on utilisait l'urine aussi, il faut pas l'oublier. Une urine qui était collectée dans les toilettes publiques par les artisans tanneurs, et le commerce du cuir faisait dès lors l'objet de taxes. C'est Vespasien, vous savez, qui a fait les principales taxes sur cette urine publique, et donc on connaît toute l'histoire, toute la réputation réputation qu'en a tiré cet empereur. Alors, une tannerie a été fouillée sous les cendres de Pompéi et les archéologues y ont trouvé de nombreuses amphores de Lipari, vous savez, cette île de Lipari qui a été tristement célèbre bien plus tard et qui était connue à l'époque comme productrice de tanins et dont l'avantage principal était, après traitement ce tanin, de permettre la finition du produit par teinture. Donc on va commencer à avoir des cuirs colorés. Il faudrait parler des différentes techniques. Les tanneurs deviennent au sens propre des tanneurs, c'est-à-dire qu'ils vont tanner le cuir essentiellement à partir de 300 avant notre ère, disons-le. Alors, pour aller plus vite, disons que c'est au Moyen-Âge que cette industrie, si l'on peut dire, du cuir devient extrêmement importante, avec une capitale qui est Cordoue. Vous savez, tous ces artisans du cuir de Cordoue qui vont donner le nom de cordonnier, d'ailleurs, tout simplement. Et il faudra attendre l'époque vraiment très moderne, c'est le milieu du 19e siècle seulement, pour que les modes de tannage soient totalement modifiés. Et les premiers brevets des modes de tannage modernes, c'est 1840. En 1885, le brevet relatif au tannage minéral entre en pratique dans l'industrie. Il prendra ensuite l'essor que nous connaissons aujourd'hui. L'industrie du cuir aujourd'hui, mais ça nous entraînerait sur un terrain qui n'est plus du tout historique, cette industrie est florissante, immense, extrêmement importante. Je vous parlais tout à l'heure d'une géopolitique du cuir, je crois que le mot n'est pas trop fort. Entrée toute discrète d'Elena Morna. Bonjour Elena.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors cette histoire finalement nous ramène au sujet des experts européens. Les tanneries sont florissantes. Oui, elles l'étaient en tous les cas, fut oui. une époque en France. Malheureusement,
ce sont
elles
plus
le
des
sont
tanneries
de
artisanales
moins en moins.
Aujourd'hui, hein.
Beaucoup plus en Italie et en Espagne d'ailleurs. Et en fait, on va s'intéresser aux consommés français. Est-ce encore possible aujourd'hui de s'habiller, de rouler français? Eh bien, on en parle avec les experts européens et avec vous. 3921europe1.fr pour vos questions.
Je crois qu'on peut dire que si l'on met les capitaux de côté, les deux plus grands maroquiniers du monde sont français tout de même.
Pour l'instant,
bonne émission.
Encore
et à demain, Céline.
À demain, Franck.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.